La Brussels Academy, université urbaine et citoyenne, diffuse les enregistrements de 6 conférences du professeur Riccardo Petrella, grand penseur de la mondialisation. Riccardo Petrella illustre en 6 leçons son livre « Au nom de l'humanité, l'audace mondiale » paru en 2015. Vous allez entendre la conférence inaugurale enregistrée le 22 septembre 2017 à la Maison des Cultures de Molenbeek.
Bonsoir à vous toutes et à tous. Le point de départ, au fond, de ce chemin qu'on veut commencer, a été le suivant. Si on est honnête, si nous sommes tous honnêtes, il faut reconnaître que nous, comme habitants de la Terre, en ce moment, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème que nous avons créé. On est un peu dans l'impasse, si on peut dire. On parle de paix. Et ce qui est caractéristique aujourd'hui encore plus net, c'est la militarisation du monde. On parle d'égalité et les inégalités, la croissance de l'appauvrissement, les mécanismes d'appauvrissement, d'exclusion n'ont jamais été aussi forts, aussi denses et aussi cruels qu'à l'heure actuelle. Malgré, on pense que effectivement la vie d'aujourd'hui serait meilleure que la vie d'il y a 1700. On dit qu'on aime la nature, on dit que tout le monde, depuis 30 ans, on parle de développement durable, et on ne fait que dévaster, continuer à dévaster le lieu, l'oïkos, dans lequel nous, les habitants de la Terre, nous vivons. On ne fait que parler de croissance, encore une fois, des années 90, lorsqu'effectivement il y a eu un moment de bifurcation. Et peut-être, ce n'est pas si j'ai eu le plaisir ou pas, mais j'ai le plaisir de participer au tout débat et aux décisions vers la bifurcation. Je dois dire que la position que des milliers de millions de gens de la rue et des gens du monde tenaient à l'époque a perdu, nous avons perdu. C'est la tendance vers le contraire, la marchandisation de la vie. Et voilà un des problèmes que nous avons créé et que nous ne résolvons pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a réduit toute forme de vie à une marchandise. Et on a prétendu que la valeur des choses, de la vie matérielle et immatérielle, dépendait de l'échange. Et que la valeur était déterminée par un prix qui devait permettre de rémunérer au maximum le risque pris par les gens qui investissent et le risque pris par les consommateurs qui achètent. Et donc, cette marchandisation de la vie, on le voit aujourd'hui, même la connaissance, d'où l'importance que les universités, l'université joue un rôle différent de ce qu'on lui attribue, parce que désormais, les universités, en quasi-totalité, sont devenues des écoles de business, des écoles de gestion. Tout est gestion dans les universités. Et donc, cette marchandisation de la vie est profonde. Et on voit mal, pour l'instant, où sont les pouvoirs capables de lutter contre la marchandisation. Une économie donc à la dérive, une économie qui est devenue le dominus, ce qui a le pouvoir, la puissance même de régler, de décider le devenir du monde. Ce qui s'est traduit par un autre grand problème, c'est-à-dire la privatisation de la vie et surtout la privatisation du pouvoir politique. Et là encore, on peut faire un constat. Avec la privatisation du pouvoir politique, le sens même réel de la démocratie s'effiloche non seulement, mais disparaît. Et alors si l'essence de la démocratie, c'est-à-dire l'essence de vivre ensemble par des règles qu'on a fixées ensemble dans la tentative, bien entendu toujours tentative de réaliser que ce qu'on fait ensemble est dans l'intérêt de tout le monde, cette démocratie disparaît, l'essence de la communauté s'envole. L'essence des identités plurielles qui se rencontrent pour augmenter la capacité d'innovation et de création des habitants de la Terre disparaît, se volatilise. la volatilité du sens de la vie est au fond ce qui est le plus préoccupant. C'est difficile aujourd'hui d'expliquer à nous-mêmes, à nos enfants, à nos petits-enfants, quel est le sens de la vie. On peut faire des affirmations, souvent sont gratuites, mais tout est en chambardement à l'heure actuelle, et au cœur de ce chambardement, il y a la vie. Au 19e et 21e siècle, la grande question sociale de vivre ensemble a été finalement le travail. Le travail était la vie, le travail était source de revenus, le travail donnait une identité sociale, le travail justifiait le rôle, le travail était une communauté, le travail était l'enthousiasme de créer des produits, des services, le travail était cette manière de se libérer, d'être digne, etc. Ce fut le travail, la question sociale du 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, la question non seulement sociale, mais existentielle, est la vie. C'est parce que le capital, comme jadis, avait prétendu d'être propriétaire du travail, aujourd'hui le capital ne prétend plus d'être propriétaire de la vie. Il l'est. Par la brevetabilité du vivant, par l'appropriation propriétaire des algorithmes, le capital est devenu le propriétaire structurel de toute forme de vie. Et c'est là l'enjeu. Alors, face à cette question, pourquoi sommes-nous incapables aujourd'hui de résoudre le problème, je vais essayer rapidement de structurer un peu ma tentative de réponse. D'abord, en présentant les théories les plus courantes qui essaient d'expliquer pourquoi il y a cette impasse, il y a ce qu'ailleurs on a appelé le déficit régulateur, ce qu'ailleurs on a appelé une perte de boussole de l'humanité qui ne sait plus où elle est, où elle va, etc. Et je terminerai cette première section en disant que les réponses qu'on est en train de donner ou de vouloir imposer pour comprendre, pas encore pour agir, pour comprendre, ne sont pas suffisantes. Et donc, dans une deuxième session, je vais essayer d'avoir la prétention de vous dire les raisons du fait de l'impasse. Mais vous avez un scientifique qui n'ose pas prétendre de savoir, ce n'est pas un scientifique, c'est un charlatan. Donc, dans cette deuxième section, j'essaierai de vous soumettre à votre attention une thèse qui explique, à mon sens, pourquoi. Et alors, à partir de ce moment-là, j'entrerai dans le vif du sujet et je vais essayer de m'interroger. Mais alors, où faut-il trouver les moyens pour aller contre les vraies raisons et pour résoudre le problème que les vraies raisons de l'impasse ne permettent pas de résoudre. C'est là qui commence le chemin de l'humanité. C'est là qui commence le chemin de l'humanité et qui va essayer de montrer qu'il y a encore une fois aujourd'hui une nouvelle bifurcation. La bifurcation qui consiste à dire on ne peut jamais tout changer, tout bouleverser, on ne peut pas faire des solutions radicales, il faut avoir un réformisme intelligent, un réformisme pragmatique. Et là, alors, il est temps effectivement d'analyser de manière la plus rigoureuse possible la portée, l'ampleur, la pertinence des solutions proposées dans le cadre du système. Et là, c'est la question de toutes les propositions qui vont du revenu de base, qui vont dans une nouvelle dépassement du PIL, qui vont vers l'économie circulaire, qui vont l'économie des communions, qui vont vers l'économie du bien commun, telle interprétée par l'école austro-allemande actuelle, etc. Toutes les solutions qui, à mon avis, appartiennent d'une logique non pas nécessairement mauvaise, mais une logique qui dit on ne peut que réformer le système dans le cadre du système. Et là, au contraire, j'ai fait alors rapidement, comme dans une course à obstacles, le saut, à dire non, ce réformisme ne permettra pas de résoudre notre capacité de vivre ensemble dans l'intérêt des presque 10 milliards d'habitants qui seront sur la Terre selon les dernières prévisions démographiques en 2050. Et alors, je vais essayer de proposer tout ce qui pourrait être l'humanité et au fond cette espèce de pacte de l'humanité, et j'ai m'arrêterai à la énucléation un peu configuration dans des grands traits de ce qui est cette humanité en construction, étant donné que l'hypothèse aussi de départ, un des postulats de tous les travaux, je dirais un peu scientifique, que j'essaie de faire, c'est de dire que l'humanité n'existe pas et que donc tout est à créer, tout à inventer. Voilà, grosso modo, un peu le schéma de l'intervention. Et puisque je commence à travailler, je me lève parce qu'on ne peut pas penser travailler en étant assis. Alors, la première description, une fois qu'on a terminé, j'en ferai davantage lorsqu'on commencera les conférences, l'identification des problèmes du monde que nous ne sommes pas capables de résoudre. Eh bien, il y a deux thèses principales à l'heure actuelle qui sont thèses de nature idéologique, de nature scientifique, de nature anthropologique, etc., qui essaient de dire pourquoi on est dans cette impasse. La première n'est pas spécifique à notre période. La première est de dire que c'est la nature humaine. On ne pourra jamais changer le monde. On ne pourra jamais éliminer la guerre. On a eu la guerre, il y aura la guerre, ça continuera la guerre. La guerre fait partie de la nature humaine. Et cette inévitabilité absolue d'un monde que nous n'aimons pas, comme la guerre, la violence, est une manière ferme de la part de beaucoup de monde, non seulement de justifier ce qu'ils sont et ce qu'ils font, mais également de justifier ce que devrait être fait, parce que quand on dit c'est la nature humaine de dominer, c'est la nature humaine d'exclure, c'est dans la nature humaine de vouloir commander, c'est la nature humaine d'éliminer l'autre, c'est la nature humaine d'affirmer sa puissance, etc., d'avoir la conquête, ça signifie que dans 50 ans, on continuera à faire la guerre. Et donc on nous dit, de quoi te mêles-tu ? Mais va prendre un bain au soleil maintenant du Maroc, pourquoi veux-tu changer ça ? La nature humaine. Il y a eu des pauvres, il y a la pauvreté, il y a toujours des pauvres. Il y aura des pauvres. Les pauvres sont exclus, sont existés toujours. C'est l'appauvrissement que je préfère comme terminologie plutôt que la pauvreté, parce que la pauvreté est le résultat d'un processus social. L'appauvrissement, il n'y a pas de pauvreté en tant que telle. Il y a des dynamiques, il y a des facteurs qui génèrent l'appauvrissement des gens et créent des exclusions. Ce n'est pas dit que les sociétés nécessairement doivent engendrer des exclusions. Ce sont les sociétés moissonnantes. Mais les bonnes sociétés n'ont jamais créé de l'appauvrissement. Et alors, on nous dit donc un fait de nature. Quand on dit c'est un fait de nature, on nous donne quelque chose de définitif dans tous les temps et dans tous les lieux. L'universalité la plus étendue, la plus vraie dans le sens du mot, c'est la nature, qu'on ne peut pas changer. Et cette thèse, au fait, ne tient pas debout. Je l'expliquerai davantage la prochaine fois. Ne tient pas debout parce que pour une simple raison. Si on dit qu'il est dans la nature humaine d'être égoïste, individualiste, agressif, méchant, dominateur, etc., comment vous expliquez que vous pouvez être généreux, que vous pouvez sacrifier votre temps, votre vie pour d'autres? Vous n'êtes pas fou quand, hein, si vous vous sacrifiez pour d'autres. Comment peut-on être alors sujet de bonté, d'amitié, d'amour? Alors, on peut dire, mais ça aussi fait partie de la nature humaine. La bonté, la justice, l'amour, la fidélité, le sens d'esprit de coopération. Mais alors, si la bonté et la violence, l'amour et l'égoïsme font partie de la nature humaine n'est pas un facteur discriminant. Elle ne discrimine rien du tout, n'explique rien du tout. Donc, on ne peut pas faire... Alors là, vous devrez faire tous, une espèce, nous tous, nous devrons faire un cours de auto-anthropologie pour nous libérer de la nature humaine. Mais je m'arrête là, la nature humaine n'est pas un facteur discriminant qui pourrait nous permettre d'expliquer ce qui se passe. Alors, il y a la deuxième thèse, qui est beaucoup plus solide du plan de vue théorique, du point de vue scientifique et empirique. C'est la thèse qui navigue désormais, flotte sous nos têtes, et dont on entend parler tous les temps, sous formes les plus diverses. C'est la thèse de la complexification croissante du monde. Et on nous dit, écoutez, grâce à la technologie, grâce à toute une série de choses, nous avons créé des systèmes très complexes, très interdépendants, gros. Et on n'est plus capable de maîtriser ces systèmes qu'on a mis en mouvement. Et ces systèmes sont en train d'auto-générer, s'auto-confirmer, de s'auto-légitimer. La complexité est accrue de manière telle que devient impossible de changer les systèmes dans sa totalité et dans son intégrité. Ce qu'on peut faire, maximum, c'est de changer dans un petit morceau de la machine, mais pas un morceau qui pourrait déclencher le bouleversement total du système complexe. Pourquoi on a sauvé les banques? On a dit « too big to fail ». Vous vous rappelez? On a dit « ils sont trop gros pour faire faillite ». Le concept de « too big to fail » est encore une fois absolutiste, est encore une fois un moteur qui freine, un frein terrible à la dynamique sociétale. Parce que pour dire « alors moi je deviens grand, puissant, et je suis trop puissant pour disparaître. Alors je suis trop puissant, trop grand, parce que tout cela alors s'écroulerait ». Et cette idée de la complexité n'est pas si injustifiée, si faible dans les argumentations. Parce que regardez ce qu'on a fait du travail, regardez ce qu'on a fait de la démocratie. C'est au nom de la complexité qu'on a éliminé les droits. C'est au nom de la complexité qu'on a éliminé la démocratie. Combien de fois on nous a dit, écoutez, on n'a pas le temps de discuter. Le monde est trop complexe, trop grand pour se donner le temps de battre tout le temps, tout le temps. Et ce monde, plus il est complexe, plus il est fort et rapide dans son évolution. Parce que les vitesses des changements internes sont tellement qu'il faut suivre, il faut s'adapter. Pourquoi on parle beaucoup d'adaptation et pas de décision? Parce que désormais, on nous dit on ne peut pas décider. Il y a un système qui va avant, qui va à l'avant, qui se complexifie davantage, qui devient de plus en plus fort. Et s'il y a 10 banques aujourd'hui qui sont les systèmes qui contrôlent le système bancaire, eh bien dans quelques années ou décennies, ils seront 6. Et si aujourd'hui il y a 6 grands groupes d'automobiles, de production, il y en aura 4. Et s'il y en a aujourd'hui 9 qui sont dans l'industrie pharmaceutique, il y en aura 3, etc. Et ces formes complexes, puissantes, plein d'interdépendance et plein aussi de fragilité, eh bien on ne peut pas les changer parce que ce système complexe est fragile. Vous changez un morceau déterminant de la complexité, tout s'écroule. Too big to fail. Et donc too big to be changed. On ne peut pas les changer. Et cette thèse de dire de l'inévitabilité de ce qui existe couplé avec la naturalité de l'inévitabilité de ce qui existe, finalement a conduit la plus grande partie de la population mondiale à suivre les dominos. Parce que les discours sur la nature humaine et les discours sur la complexité sont les discours des groupes dominos. Ce sont les narrations des groupes dominos. Et qui, comme vous comprenez bien, ce sont des narrations à dos des dominants. Ils ne sont pas faits pour ceux qui sont exclus, pour ceux qui sont dominés. Au contraire, sont utilisés pour renforcer l'aliénation et donc l'acceptation de l'adaptabilité au monde qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas construit et auquel ils ne font pas partie pour légitimer le système qui, lui, il dit, mais moi, je suis la seule voie possible. Combien de fois on nous a dit ces 30 dernières années, there is no alternative, Tina. Combien de fois on nous a dit la fin de l'histoire? Combien de fois on nous a dit, tu peux changer toi? Donc, tu peux être un consommateur d'énergie fossile ou un consommateur d'énergie renouvelable. Et donc, tu vas te changer. Mais que la propriété privée des énergies et qu'aujourd'hui, au lieu d'être Shell des fossiles, sera Shell du solaire, ça c'est le principe de la propriété et appropriation privée des énergies de la vie, ça on ne change pas. Mais toi tu peux changer, au lieu d'aller en voiture, tu vas en vélo, que c'est beau. Tu vas en vélo, mais la voiture est là, elle continue, on nous dit même que demain, on est tellement privilégiés, ceux qui peuvent s'acheter la voiture, qu'on ne devra plus conduire la voiture. Parce que c'est tout automatique. Et nous, on dit, mais que c'est beau, ça. C'est fantastique. Regarde un peu quel complexe. Regarde quel système. Alors, si il y a des éléments bons, là, le défaut théorique fondamental de la complexité, de la théorie de la complexité, c'est qu'elle n'admet pas le changement. Et ça, c'est théoriquement impossible. On ne peut pas supposer comme postulat de base d'une construction de société que la société ne peut pas changer. Donc que la créativité ne peut être qu'endogène, c'est-à-dire à l'intérieur. Pas qu'elle soit seulement origine de l'intérieur, mais qu'elle reste dans le... Non. C'est la pire de l'entropie. Alors, vous voyez que je vais vite, je passe immédiatement maintenant à la session, mais quelle? Alors, comment expliquer? Et là, je pense que vous devez me pardonner si maintenant je vais dire des choses qui, non pas vont nous blesser, mais qui peuvent paraître un peu paradoxales. Et le paradoxe est toujours un peu blessant. Hein. Personne n'accepte de faire partie du paradoxe, des paradoxes de la vie. Alors, pour moi, la raison fondamentale de pourquoi nous sommes incapables, 7 milliards et demi de gens, 44 000 grandes entreprises mondiales, multinationales, des milliers d'universités dans le monde, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème. C'est parce qu'il y a trois producteurs de sens qui sont dominants et qui nous empêchent d'être ensemble pour résoudre le problème commun que nous avons créé. Parce qu'au fond, tout, j'ai terminé l'analyse des problèmes du monde par l'essence de la vie, tout dépend du sens. Tout. Pourquoi vous habillez d'une certaine manière? Pourquoi vous voulez jouer aux Jeux mondiaux à 18 millions de personnes? Pourquoi vous aimez la glace au citron plutôt que la glace au chocolat? C'est tout problème de sens. Et c'est ça qui fait, qui est le moteur de la vie, c'est le sens. D'où toute l'importance d'être un peu auteur du sens qu'on se donne. Et ça, le problème devient quand vous n'êtes plus auteur de votre propre sens de vie. Le premier producteur de sens, et là je commence un peu le paradoxe, est tous les systèmes, toutes les institutions, toutes les personnes qui affirment de parler au nom de Dieu. C'est paradoxal, non? Quand on parle au nom de Dieu, on devrait parler d'être tous ensemble, d'être tous fils de Dieu ou d'être tous de Dieu. Au nom de Dieu devrait unir les gens. Au nom de Dieu devrait donner ce souffle terrible qui élimine les montagnes, ouvre les océans. Non, au nom de Dieu. Ce n'est pas vrai. Encore maintenant, en Inde ou en Indonésie, ben, y a des exterminations des gens au nom de Dieu. Je ne parle pas de l'extrémisme islamiste, ça c'est par rapport à cette question-là, c'est minoritaire tout ça. Au nom de Dieu, on continue à tuer. Au nom de Dieu, on construit les murs. Bush, qui fut celui qui a déchiré en 2003 le traité que Carter avait signé avec la Corée du Nord, traité de coopération, traité de non-prolifération, traité d'ouverture, Carter avait signé ça. Bush a déchiré sans consultation avec la Corée du Nord. Et pourquoi? Parce que pour Bush, la Corée du Nord était devenue un pays sous la ligne du mal. Parce qu'il n'était pas au nom de Dieu comme Bush croyait. Au nom de Dieu encore, on sépare tout le monde dans les pays d'Amérique latine où c'est plein de 200, 400 chapelles religieuses qui se battent l'une contre l'autre, pas nécessairement avec les armes, mais qui se battent pour avoir du prosélytisme. Encore aujourd'hui, au nom de Dieu, on n'a pas réussi à développer cette espèce d'esprit commun œcuménique mondial. Au nom de Dieu, on continue à diviser. Au nom de Dieu, ne nous permet pas d'avoir une vision planétaire, universelle de l'humanité, des besoins, de la responsabilité que nous avons. Au nom de Dieu, ne nous éduque pas. Mais il y a seulement le pape Francesco qui est formidable, qui lui ne parle pas au nom de Dieu. Son Dieu est fantastique. Parce qu'il parle au nom de l'humanité. Il parle au nom de l'amour, de l'amitié, de la solidarité, du partage, du respect. Il ne parle pas d'un Dieu qui punit, qui est absolu, qui est le vrai. Il ne parle jamais de ça, lui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les clergés n'aiment pas. Son clergé ne l'aime pas tellement. Au nom de Dieu, hélas, avait joué un rôle important dans le passé. Parce qu'il avait permis de maintenir malgré tout des limites à la barbarie des dominants en disant non, tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu, etc. Mais aujourd'hui encore, au nom de Dieu, c'est un facteur inhibitoire de notre capacité de résoudre le problème. On en parlera la prochaine fois. Le deuxième aussi est un peu paradoxal, le deuxième producteur de sens. Et c'est au nom du peuple, et surtout quand au nom du peuple est devenu au nom de la nation. Il est vrai que là aussi, par exemple, la nation, au XIXe siècle, et le principe de nationalité, avait été un mouvement de libération du peuple. Parce qu'il y avait des peuples qui avaient un pouvoir politique, un État, et d'autres qui n'en avaient pas et qui étaient dominés. Donc, le mouvement au nom de la nation, nous récupérons notre indépendance, comme maintenant les Catalans à Catalogne. Au fond, quand on dit l'autodétermination des peuples, on ne peut pas dire, oui, moi j'ai pu m'autodéterminer, toi tu ne peux plus déterminer, parce que c'est moi qui t'ai dit que... Non, donc ce n'est pas logique. Mais au nom de la nation avait été un facteur de progrès, il avait été un facteur de laïcisation de l'État. Donc ce n'était plus au nom de Dieu, c'était un processus de démocratisation, la représentation du peuple se trouve par l'État. Avait été l'état de droit au nom de la nation, avait bâti un peu toute une série de choses. Au nom de la nation, avait dit que la sécurité était collective, la sécurité sociale était collective. L'état du welfare était basé sous la légitimation par un peuple qui se sent porteur d'une identité, porteur de valeurs, etc. Mais avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale et avec tout le reste, au nom de la nation est devenu aussi un facteur de dévastation du vivre ensemble. Et le concept de souveraineté nationale absolue, à l'heure actuelle, est utilisé justement pour ne pas changer, en pensant que, vous le savez fort bien, qu'au nom de la souveraineté nationale, l'actuel président de la Commission européenne, M. Juncker, quand il était Premier ministre au Luxembourg, a empêché pendant 18 ans toute harmonisation fiscale de l'Europe. Et il a bloqué systématiquement toute tentative d'aller vers une harmonisation fiscale au nom, en mettant un veto, en disant l'intérêt national luxembourgeois ne nous permet pas de signer votre proposition. Elle a obtenu que l'harmonisation fiscale se fasse non pas avant 2027. C'est un peu marrant que ce type qui pendant 18 ans a bloqué, c'était pas les Anglais dans ce domaine, qui a bloqué avec l'alliance des Anglais, a bloqué la construction de l'intégration européenne au nom de l'intérêt national et de la souveraineté nationale luxembourgeois, soit aujourd'hui le président de la Commission européenne. Quand il fut élu, je me suis permis publiquement d'exprimer mon indignation, dirait Stéphane, et de faire un constat que l'intégration européenne ne pouvait pas être confiée à un monsieur qui, pendant 18 ans, avait lutté contre pour défendre l'intérêt national, qui n'était pas l'intérêt national, qui était l'intérêt des groupes financiers localisés au Luxembourg. Au nom de la nation, aujourd'hui, aussi empêche toute activité de l'ONU. Au nom de la nation, aujourd'hui, a fait éclater l'Union européenne. Au nom de la nation, a permis que les 22 conférences of parties, les COP, sur les changements climatiques, n'aboutissent à rien. On nous vend que la COP de Paris, l'accord de Paris, a été un succès et que c'est un pas en avant. C'est tout faux, ça. D'abord, l'accord de Paris n'est pas contraignant. Moi, je connaissais bien Fabius, je peux dire un peu que c'est mon ami. Fabius était très intelligent en disant, oui, c'est vrai, l'accord de Paris n'est pas juridiquement contraignant, mais il est politiquement contraignant. Des mots, quoi. Nous, les Italiens, on aurait pu dire autant la même chose en tant que parole. Donc, l'accord de Paris n'oblige aucun État. L'accord de Paris ne met pas en question le principe de la souveraineté nationale. D'ailleurs, il a affirmé au contraire que la responsabilité est nationale et que chaque État doit présenter les projets qu'il a pour réduire les émissions qui appartiennent aux activités dans son pays. Mais il n'y a aucun accord de mettre ensemble un objectif, sauf celui de parvenir à ne pas faire augmenter la température moyenne de l'atmosphère de 2 degrés d'ici l'an 2070. Bon, après on verra. Donc, au nom de la nation, n'est pas un facteur favorable. Et la sécurité nationale, aujourd'hui, permet de faire un tas de choses mauvaises. Pire encore, mais j'en parlerai davantage lorsqu'on dédiera ça, au nom de la nation a tué la démocratie parce qu'il a tué le peuple. C'est-à-dire, quand on a ethnicisé le peuple, et on a dit le peuple belge parce que ça fait partie d'une nation, le peuple belge n'existe plus. Parce que le peuple belge existe concrètement, le peuple chinois, le peuple... Mais dès qu'on l'explique parce qu'il est chinois, le peuple n'existe plus. Parce que c'est la nation alors. une indivisible. C'est la nation qui a la souveraineté. La nation est quelque chose de supérieur, est presque mystique, est quelque chose comme Dieu. Le peuple qui est concret. Et la nation a encapsulé, a exproprié le peuple. C'est pour cela que souvent le peuple aujourd'hui va se battre contre la nation. C'est pour cela que par le monde en Afrique, la libération nationale de tout pays d'Afrique, le peuple après s'est battu contre les classes dominantes qui ont réussi à avoir leur État. Parce que ce n'était pas le peuple qui était le véritable dépositaire et le véritable acteur du nouvel État créé. Et encore aujourd'hui, on s'est posé la question pour la Catalogne. Est-ce que la Catalogne va faire un État dans l'intérêt de toute la population catalane ou bien simplement des nouvelles oligarchies technocratiques mondialisées de la Catalogne? Et c'est peut-être ça qui va se passer. Et donc il est dommage qu'au nom de la nation ait pu détruire aussi au nom du peuple. Et donc, peuple démos, crassie. Le pouvoir national n'est pas la démocratie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'en fout des parlements. Des parlements, on a même envie de les éliminer. Macron a fait maintenant la réforme du Code du travail par 39 ordonnances, en s'étant donné l'autorisation de son assemblée, qui est sa majorité, de pouvoir gouverner et changer le Code du travail, la chose la plus importante, le travail de ces deux derniers siècles, par des décrets gouvernementaux, sans que désormais l'Assemblée française n'intervienne. Il le fait en tant que tel gouvernement. En 2 mois, 39 ordonnances, il a changé complètement toutes les règles, en disant qu'on n'a pas le temps de discuter. Il faut être efficace, compétitif, rapide. Au nom de la nation, donc, j'arrête. Et aussi, hélas, paradoxal, mais c'est comme ça. Au nom de la nation, la Belgique avait tué les peuples flamands et les peuples francophones. Et c'est pour ça que maintenant, les peuples flamands, le peuple wallon apparaissent. Et ce fut une violence, je l'explique par quelques pages dans les livres. Mais le pire devait arriver. Je ne vous ai pas encore parlé du pire. Et c'est au nom de l'argent. C'est paradoxal, non? On nous dit que l'argent est un instrument de vie. Que si tu n'as pas d'argent, tu ne vis pas. On nous dit que le pile est l'expression la plus avancée de la créativité d'un pays. Et on l'exprime en forme monétaire, le pile. Donc au nom de l'argent, devrait être le bonheur. Le bonheur, les économistes maintenant, après avoir détruit tout, ils s'occupent maintenant du bonheur, non? Et ils parlent du bonheur national, toujours en termes d'argent. Donc en principe, là aussi, l'argent a été un progrès, ce n'était plus 9 femmes pour 100 chèvres, c'est l'argent. C'était une libération dans les rapports. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant au nom de l'argent? Au nom de l'argent, commençons par le premier, militarisation, on tue. Vous savez qu'on ne fait plus la guerre pour tuer. Oui, ça c'est effet collatéraux, quoi, hein? Mais on fait la guerre parce qu'il est le secteur, le deuxième secteur le plus rentable de l'économie mondiale. Si les activités militaires de production des armements devaient s'arrêter, le pile mondial s'écroulerait. On fait la guerre pour gagner de l'argent. On fait les drones parce que ça correspond à une nouvelle génération d'outils. Et puis, bien entendu, il faut les utiliser. Mais même si on ne les utilisait pas, on a entre-temps fait l'argent. L'Allemagne aujourd'hui est la 4e principale exportatrice d'armes dans le monde. La France, si on enlevait le nucléaire et si on enlevait ses armées un peu en Afrique, etc., perdrait de l'économie. On a considéré qu'entre 15 et 25% de l'économie française s'écroulerait. Et aujourd'hui encore plus, parce que si jamais les systèmes militaires actuels devaient s'écrouler, du fait de la haute technologisation de ce secteur, où la valeur ajoutée est la plus élevée, notamment dans les produits et les services les plus sophistiqués, ont des effets considérables sur le reste de l'économie. Pensez, pourquoi on lutte pour maintenant faire des drones ou des bombes biovitales ou biomodificatrices? Pourquoi on fait des armes chimiques? Mais c'est parce que tout cela est accepté par les gens, parce qu'on dit investi dans tout ce secteur de recherche. Et si les gens savaient qu'on investit dans tout ce secteur de recherche pour créer des armes chimiques, bactériologiques et nucléaires, peut-être ils seraient plus favorables. Au contraire, parce que ça fait de l'emploi, parce que ça permet de s'enrichir. Au nom de l'argent, donc, on fait la guerre. Au nom de l'argent, désormais, on décide si vous méritez un travail ou pas. Au nom de l'argent, on dit qu'une dame de Milan, de 86 ans, qui a une pension de 400 euros, ne vaut rien. Et au nom de l'argent, on accepte que Bill Gates, sans travailler en 2015, puisqu'il était propriétaire de 41% de ses actions de Microsoft, gagne 15 milliards de dollars en année, sans travailler. J'ai fait un petit calcul. L'enseignant d'école primaire en Italie, donc l'enseignant d'école primaire, une des professions les plus nobles, les plus importantes, qui devrait être plus payée que nous comme professeurs universitaires, non? Ben, il gagne, après 10 ans, 1500 euros net, s'il les gagne. 1500. Eh bien, faites rapidement vous-même un calcul pour gagner 15 milliards, il faut 940 000 à peu près enseignants d'école élémentaire italienne. Et puisque l'Argentin, l'enseignant argentin, gagne 500, ben il faut 2 millions et plus d'enseignants qui travaillent pendant un an pour gagner Bill Gates. C'est une économie au nom de l'argent. Et au nom de l'argent, désormais, détermine la valeur de tout. Dans les livres, j'explique comment on est arrivé au nom de l'argent, à partir de toutes les thèses marginalistes du 19e siècle, et je montre un peu ça, mais je n'ai pas le temps de détailler. Et donc, au nom de l'argent, nous empêche. Au nom de l'argent, on essaie de s'accaparer désormais de toutes les terres africaines. Il paraît que Coca-Cola est en train de négocier fort grâce au gouvernement américain en Argentine pour pouvoir acquérir les terres qui couvrent le plus grand aquifère mondial, l'aquifère Guarani. Mais les Guarani, les terres de Guarani sont habitées par les peuples indigènes. Des Guarani, ce sont tous des groupes de peuples, une quarantaine, qui traversent tous les États et qui considèrent encore les Guarani comme leur lieu sacré de vie. Au nom de l'argent, on est en train de les donner à Coca-Cola, parce que Coca-Cola, s'il n'a pas de l'eau, vous ne pourrez plus jouir de Coca-Cola. Que c'est dommage. Hein? Eh bien, au nom de l'argent, on détruit les forêts. Au nom de l'argent, on considère que vous n'avez plus aucun droit, parce que les droits coûtent. Alors, si ces trois producteurs d'essence ne nous permettent pas d'avoir une vision d'abord des imaginaires communs, des envies communes, des perspectives, des choix communs. Alors, là, il faut commencer à s'interroger parce qu'on n'est qu'encore au commencement de l'interrogation. Les passages maintenant, c'est pas facile, hein? Si Dieu, la nation, l'argent, la complexité, la nature humaine et tout ça, alors quoi? Alors il faut faire un saut pour comprendre, se demander, mais qui sommes-nous? Et là, je vais vite. La première chose qui est, ces dernières années, un peu émergée en tant pour répondre qui sommes-nous, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, etc., c'est qu'on a compris non seulement que nous sommes noirs, blancs, beaux, blés, femmes, hommes, etc. Nous appartenons à une entité de vie qui s'appelle la vie humaine, l'espèce humaine, non seulement l'espèce vivante humaine, non seulement on a compris ça, et donc on a pris conscience d'une certaine identité, d'une certaine identité de vie, les êtres humains. Même si encore le fait d'utiliser « humain » subit l'influence encore, disons, masculine de l'homme, homo. Et donc, on n'a pas encore une richesse de vocabulaire permettant d'exprimer toute cette diversité de l'espèce vivante. Et de l'espèce vivante, qu'on dit l'humanité comme ensemble des êtres humains. Mais on n'a pas seulement compris ça. On a compris quelque chose de révolutionnaire. On a compris que tout en étant distinct des autres espèces vivantes, on est différent des araignées, on est différent des arbres, on est différent de l'eau, on est différent de tout, c'est autre chose, même si on est eau, même si on est arbre, etc. Mais on a compris que nous faisons partie d'une communauté générale de vie sur la Terre. Que sur la Terre, il y a beaucoup d'espèces vivantes et nous faisons partie de ces espèces vivantes. Nous sommes le résultat de l'évolution. On a compris au fait du fait que 82% de nos gènes, nous les partageons avec les cochons. Ce qui permet de dire aux francophones que tout est bon dans les cochons. Hein? Et pourquoi disons-nous que tout est bon dans les cochons? Eh, parce qu'on a les mêmes gènes. Hein? Et on a compris, comme on a 72% des gènes avec l'araignée. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a compris? Que l'ancienne dichotomie ou distinction entre êtres humains et la nature n'est pas valable. Nous sommes la nature. Et vous savez que quelqu'un qui a compris tout ça et qui commence à l'écrire même, c'est Papa Francesco. Vous imaginez qu'un pape dise que nous faisons partie de la nature? Et donc que l'écologie intégrale, nous, on ne peut plus parler des êtres humains et la nature. C'est encore une mystification. Nous, quand on dit qu'il faut défendre la nature, nous faisons partie de la nature. On n'est pas différent. On a la même existence de toutes les autres espèces vivantes. Et là, nous avons un travail énorme à faire sur le plan du langage. Je ne sais pas quand on arrivera à utiliser d'autres mots pour expliquer la nature, parce que on est, et les êtres humains, on est la même chose. On fait partie d'une communauté historique du vivant. Cela nous a permis de comprendre, et ça c'est le passage vers toute la partie alors propositive, que nous sommes la seule espèce vivante de la nature qui est capable de détruire la nature, nous compris donc. Les arbres ne détruiront jamais la vie sur la Terre. S'il y a des risques existentiels de la disparition de la vie sur la planète, ça peut être des météorites, ça peut être des phénomènes extraterrestres. Les seuls intraterrestres qui peuvent détruire la vie sur la Terre, c'est nous. Et là, on a compris qu'en faisant partie de la nature et étant la seule espèce vivante capable de détruire la vie sur la planète, on commence à comprendre que nous avons une responsabilité unique vis-à-vis de la vie. Et cette responsabilité unique vis-à-vis de la vie n'est pas du terrorisme intégral écocentrique. C'est un constat. Et que ce constat d'une certaine intelligence de notre part d'avoir finalement compris cette donne. À travers nos armes, à travers nos comportements, nous sommes en train d'arriver à toute une série de limites qu'on appelle existentielles, dont le dépassement signifie qu'on est dans une phase d'irréversibilité de la diminution de la vie sur la planète Terre. Et là, alors, les éléments de la complexité interviennent pour nous faire comprendre que le jour où on atteint une limite existentielle dont personne ne connaît pour l'instant les niveaux, c'est-à-dire on ne sait pas si après 30% de disparition de la diversité de la vie sur Terre, on serait entré dans une phase d'accélération de l'irréversibilité de la disparition de tous les restes des espèces vivantes. Il y a certains scientifiques qui le disent. Ils donnent même, certains donnent 1000 ans pour que toute la vie disparaisse au fur et à mesure où nous faisons progresser les taux de disparition des espèces vivantes. D'ailleurs, l'empreinte écologique qu'on commence à mesurer depuis 1900, au début de 1970, nous dit que, par exemple, nous avons atteint le 2 août de cette année, alors que quand on a commencé à les mesurer, nous étions, je vous le dirai maintenant, nous étions bien, bien en bonne position, c'est-à-dire que le 2 août, nous avons consommé, sur toute l'année, le capital biotique de terre et d'eau renouvelable de l'année. Alors que quand on a commencé à calculer, nous étions au 84, c'est-à-dire c'était le 17 décembre, c'était presque, on n'avait pas consommé de capital biotique de terre et d'eau, mais qu'on avait commencé le processus. Et en 30-40 années, on a accéléré, peut-être c'est un peu exagéré, il faudrait modifier un peu la méthode de calcul, mais le sens est celui-là, que nous sommes en train, chaque année, d'éliminer le capital biotique de terre et d'eau renouvelable. Et que donc, pour vivre sur une année, maintenant, on entame l'utilisation du capital biotique fixe. Ce qui signifie qu'au cours de qui sait combien des siècles, on pourrait arriver à avoir détruit complètement la vie sur Terre sans avoir besoin de frégration nucléaire ou d'un météorite qui tombe sur notre terrestre. Et c'est ça que commence l'histoire de l'humanité. Celle que j'essaye de, au nom de l'humanité. D'avoir compris que nous sommes la seule espèce vivante qui est responsable de la pérennité de la vie sur Terre. Alors, à partir de cela, vient le reste. Et dans les autres rencontres que nous aurons, alors je commencerai à essayer de donner corps et une configuration concrète à cette humanité. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous avais dit que l'humanité n'existe pas. L'humanité est un concept abstrait, est une émotion. Bien entendu, les émotions existent, mais l'humanité en tant que sujet de vie quotidienne, sujet qui détermine notre devenir, n'existe pas. Alors que l'entreprise multinationale, oui, l'État belge, oui, les syndicats Ypsilon, ça existe. L'humanité n'existe pas. Combien de fois vous êtes arrivé de penser que votre vie de demain dépendra de ce qui va faire l'humanité? Ça dépendra de ce qui va faire la Catalogne, ce qui va faire la Belgique ou la Flandre, ce qui va faire l'Europe, ce qui va faire les États-Unis, ce qui va faire la Chine, ce qui va faire Monsanto, ce qui va faire Bayer, ce qui va faire Ikea. Ça, dans la vie quotidienne, ces choses-là existent. Ces entités-là existent. C'est rare ou jamais vous arrivez à penser que vous dépendez de l'humanité, concrètement. Et que dit voilà, la loi sur l'occupation du sol urbain, c'est l'humanité. Bah, non. Vous pouvez condamner, et en effet on condamne Bruxelles, l'Union européenne, mais jamais l'humanité. Ni dans ce sens, elle n'existe pas. Dans la vision du vivre ensemble, des choix que vous faites, que vous pourrez faire, l'humanité n'est pas un acteur qui intervient. Alors, mais si on a reconnu que l'espèce humaine est la seule espèce responsable de la vie, il faut l'appeler par quelque chose, cette espèce vivante. Et c'est pour ça que ma thèse est de dire que l'humanité existe puisqu'elle est l'expression de la conscience acquise au cours des derniers temps d'être un sujet responsable. D'où alors ce sujet est porteur de droits, il doit reconnaître les droits de la vie, elle ne peut pas, donc il y a une espèce d'impératif mondial, que la seule chose que l'humanité doit faire en tant que responsable, c'est justement de sauvegarder et contribuer à pérenniser les conditions de la vie et de vivre ensemble de toutes les espèces vivantes sur la planète. C'est un impératif kantien. C'est ça, on reprend le chemin du sens. Nous sommes là, non pas uniquement pour notre survie, nous avons compris que nous sommes là parce qu'on a, historiquement parlant, pendant 4, 8 décennies, ou 9 décennies, ou 7 décennies, une tâche de participer avec les autres êtres humains, en respectant la vie des autres espèces vivantes, de garantir la vie, qui est la chose la plus belle. De garantir la joie de la vie. De garantir le sens de la vie. Et donc cet impératif mondial implique qu'on se donne des principes de base. Et par exemple, dans le livre, j'essaie d'expliquer que le concept de citoyenneté, qui ne peut pas s'appliquer dans ce sens-là aux autres espèces vivantes, aux cochons, aux araignées, aux arbres, aux lacs, aux fleuves, même si, le peuple de Maori en Nouvelle-Zélande, il y a 4 mois, a obtenu de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande la reconnaissance d'un de leurs fleuves comme sujet, entité. Donc, c'est pas comme les Indiens qui considèrent les fleuves sacrés. Là, c'est les droits. C'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple dit « Ce fleuve-là est mon frère ». Mais Francesco avait... François d'Assise avait parlé comme ça, non ? L'eau est ma sœur, les oiseaux sont mes frères. Et on commence. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, on reconnaît un fleuve comme un sujet de droit et pratiquement de devoir, parce qu'un corps hydrique a aussi sa fonction pour la vie. Un corps hydrique, comme un fleuve, par exemple, participe au nettoyage et donc à la décontamination des sols, décontamination du verre, des plantes, etc. Donc, les principes de base, la citoyenneté par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir une citoyenneté ? La citoyenneté aujourd'hui est de dire tu es propriétaire de cet État. Ton existence est soumise à la propriété de l'État. L'État décide si tu dois vacciner, l'État décide comment tu te maries, etc. L'État, tu es un objet de l'État. Et donc, si on n'a pas la citoyenneté chinoise ou la citoyenneté belge, ben, on n'existe pas en tant que citoyen. Alors que l'humanité découvre qu'il ne peut y avoir que deux citoyennetés que si elle est plurielle. Il ne peut pas y avoir une citoyenneté mono-ethnique, la citoyenneté chinoise parce que le peuple, la nation chinoise, etc. Parce qu'il n'y a pas la nation du monde, ça c'est absolu. C'est vrai, on peut le considérer, étymologiquement parlant, on pourrait dire qu'il y a la seule nation qui existe est la nation de l'humanité, non? Étymologiquement parlant. Parce que c'est de là, nation, nascere, c'est la nascita, la naissance, tout ça, c'est la nation. Et donc, la citoyenneté ne peut être que plurielle. Et ici, moi je suis fier ce soir, je me le rappellerai pour le reste de ma vie, que j'ai parlé dans la maison des cultures. Et je n'ai pas parlé dans la maison de la culture, comme s'il y avait une culture, quoi. Hein? Mais des cultures, c'est extraordinaire. Et donc, cette pluralité de la citoyenneté ne peut que être concrétisé que par une pluralité des formulations, des formules de concrétisation de la pratique de la citoyenneté. Cela ne signifie pas que les dictatures ont aussi droit d'existence. Ça signifie que la démocratie qui est démo du peuple, des citoyens, peut assumer des configurations multiples, pas simplement la démocratie que nous avons inventée, de sorte que nous nous sommes arrogés ces dernières décennies les droits d'intervention humanitaire, si jamais on ne respecte pas notre système démocratique. Et alors, à partir de ces évidences, tout le problème est de savoir, mais finalement, et Eric en avait parlé à l'introduction, est-il possible d'organiser un vivre ensemble de 9, 8, maintenant 7,5, 8 milliards, et puis 9, 10 milliards de gens? Ou bien nous aurions atteint des niveaux quantitatifs, démographiques, que ce peuple démo du monde ne se prête pas à des organisations à partir des peuples, du peuple et des citoyens pluriels. Ma thèse est de dire, personne ne peut répondre de manière catégorique oui ou non à cette question. Tout ça, effectivement, c'est à inventer, c'est à démontrer. Et c'est pour cela que le problème devient aujourd'hui, par quel processus commencer ? Sachant que ce sont des processus de longue durée, qu'on ne va pas terminer le chemin en 10 ans, en 20 ans. C'est vrai que politiquement parlant, c'est un peu pauvre ça, parce que, comme disait Keynes, pour expliquer l'économie, dans le long terme, on sera tous bien et morts. Hein? Et donc, parler de 20 ans, surtout de ma part, où il me reste peut-être encore 3-5 ans de bonne tête, c'est un peu paradoxal. Mais enfin, par quel processus commencer ? Il est évident qu'on ne peut pas prétendre que Eric, moi ou vous ou toi, on soit en mesure de dire lequel est le plus important comme processus. D'où l'idée des dialogues. Les dialogues, c'est un espace ouvert où il n'y a pas d'a priori, pas d'ostracisme, pas de condamnation sur les chemins à emprunter. J'ai fait mon choix. Et c'est pour cela que je commence en développant surtout trois catégories de processus. Le processus de conscientisation et d'alerte. Il faut. Aujourd'hui, je constate, par exemple, que tous les systèmes d'information des médias ne nous permettent pas d'être conscients de ce qui se passe. Qui sait combien d'entre vous savez que c'est Bush qui a cassé le contrat avec la Corée du Nord ? Et que les États-Unis, Obama a compris, n'ont jamais voulu reprendre contact alors que le père de Kim Jong-un a fait 5 demande officielle par écrit de cesser le boycott, de recommencer à se mettre à la table, etc. Et les États-Unis ont toujours répondu niet. Combien d'entre vous le savez ? Combien d'entre vous savent, par exemple, que le 7 mars, journée mondiale des femmes, la marche des femmes a organisé la première grève du travail mondiale des femmes, avec succès. Donc qu'il y a une capacité de mobilisation de la société civile mondiale qui a organisé la première grève mondiale de travail. Alors que jamais les syndicats industriels, agricoles n'ont réussi à organiser une grève mondiale. Et si on est dans le cadre d'une mondialisation de l'économie, une mondialisation des rapports de production, une mondialisation de la technologie, comment peut-on imaginer qu'on puisse bien réguler ces processus s'il n'y a pas de capacité d'organiser la défense à travers la grève, la défense des gens qui sont au travail ? Mais on ne le sait pas. Et souvent, il m'est arrivé depuis le 7 mars de parler à un public féminin, mais ils ne savaient même pas. C'était peu. que là, j'ai posé la question, il soulevait le bras timidement comme ça. Hein, peu. Et pourtant, c'est un fait historique majeur, la première grève mondiale du travail, organisée par les femmes. Hein? Donc, conscientisation et alerte. Le deuxième processus, grand processus, c'est alors celui de la reconnaissance des problèmes, la reconnaissance des solutions, la reconnaissance des chemins terribles qui existent, énormes, grandieux parfois, qui sont ouverts. Et donc l'expérimentation. Il faut avoir courage d'expérimenter des choses qui sembleraient impossibles. L'utopie n'est pas quelque chose qui est réfléchir ou penser une situation non susceptible d'être réalisée. L'utopie, au contraire, est penser, imaginer des situations qui sont susceptibles d'être réalisées. D'ailleurs, vous vous rappelez que l'année passée, on a célébré les 500 ans de Thomas More, de la publication d'Utopia de Thomas More, mais en 500 ans, on a pratiquement réalisé toutes les utopies qu'il avait décrites dans son bouquin. Tout. Donc l'utopie est quelque chose qu'il faut réaliser. Ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Mais ce sont les dominants qui ont dit ça, c'est utopique. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les modifications et les changements radicaux. Et c'est pour ça qu'ils ont accusé de irréalisme, tout ce qui était possible mais qui était contraire à leur intérêt. Et c'est pour ça que l'utopie a été confisquée. C'est les devenirs confisqués par les dominants, c'est cette utopie. Et nous devons être capables de nous libérer de la confiscation faite par les groupes sociaux dominants. Et le deuxième processus, reconnaissance et expérimentation. Et puis le troisième, c'est le processus d'institutionnalisation et de, les Anglais diraient, capacitation, de mettre en capacité l'humanité d'agir en tant qu'acteur majeur de la régulation mondiale. Mais tout cela dans le cadre d'une élaboration par des agora des habitants de la Terre, par des agora, des agendas, de l'humanité, par des états généraux des biens communs publics mondiaux qu'il faut inventer, etc. Tout ça, c'est le grand chaudron de l'humanité qui devrait commencer dès ce soir, vu que vous avez accepté de commencer un chemin ensemble, pour lequel donc il ne me reste que de vous donner rendez-vous au 29 prochain, et j'espère de ne pas avoir éliminé la moitié des présents, parce que ça serait vraiment un grand délit de la part d'un Italien. Et moi, je ne pense pas, à part Renzi et tous les autres qui sont des délinquants, mais je ne pense pas que les Italiens sont des délinquants. Et donc, grâce pour m'avoir écouté jusqu'à présent, et merci d'être là, et à la semaine prochaine. Mais il paraît que nous allons avoir du débat, hein, parce que la démocratie signifie aussi qu'il n'y a pas seulement un qui parle. Donc vous devez parler. En tout cas, en avant comme humanité, commençons ce chemin qui sera plus détaillé, alors avec des solutions concrètes, précises, parce que à part parler, il faut être également capable de développer un imaginaire des solutions partielles, petites ou grandes, à réaliser selon des agendas qui seraient définis ensemble par les gens. Mais on verra tout ça au cours des prochains, si vous me permettez, cours. Un grand merci. Alors, et maintenant, on peut... Merci. On commence.
Vous venez d'écouter le professeur Riccardo Petrella.
Merci beaucoup.
Enregistré le 22 septembre 2017 à la Maison des Cultures de Molenbeek, dans la conférence inaugurale « Une perspective d'ensemble pour changer ensemble ». Retrouvez cette conférence de Riccardo Petrella et les activités de la Brussels Academy sur le site www.brusselsacademy.be.
La bulotte ? Je vote, Tizoute. Et sur Radio Campus, je sais pas. Radio Campus, non de pas.